Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
En ce mercredi 1er mai, vous vous penchez Jacques sur l'histoire du 1er mai
oui.
qui est intimement liée à celle du mouvement ouvrier.
Et, oui, et en particulier Clara à celle de la limitation du temps de travail à la journée de 8 heures selon le principe des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Ça fait au total une semaine de 48 heures puisque seul le dimanche était chômé. Et comme toutes les conquêtes sociales du monde ouvrier, celle-ci fut obtenue de hautes luttes. Dans un livre devenu introuvable et opportunément réédité par les éditions Le Mot et le Reste, Histoire du 1er mai, Maurice Demanger décrit en détail les origines et les évolutions de cette journée internationale, d'abord adoptée par le mouvement ouvrier dans la perspective de son unité d'action par-delà les frontières, puis inscrite dans la loi française plusieurs décennies plus tard, en avril 1947, comme un jour chômé et payé. Maurice Demanger était instituteur et syndicaliste, l'auteur de nombreux ouvrages d'histoire sociale. Il revient sur le Congrès socialiste international de 1889 à Paris, moment fondateur de la Deuxième Internationale, qui se prononça pour l'établissement d'une législation internationale du travail et la durée légale de la journée à 8 heures. Parmi ces résolutions figure également l'institution d'une grande manifestation internationale à date fixe. Celle-ci est décidée pour le 1er mai en accord avec la Fédération des syndicats américains qui avait arrêté cette date en raison du Moving Day, le jour où de nombreuses entreprises entament leur année comptable et où les contrats ont leur terme, l'ouvrier devant souvent déménager pour retrouver du travail, d'où l'expression Moving Day. Pour le mouvement ouvrier américain, ce premier 1er mai de 1890 devait aussi commémorer le souvenir des luttes pour la journée de 8 heures et notamment celui des grandes grèves du 1er mai 1886 dont la répression fit de nombreuses victimes, en particulier à Chicago. Dans la foulée, certaines entreprises accordent à leurs salariés les 8 heures sans diminution de salaire. La brèche est ouverte pour les négociations. En France, le 1er mai 1891 est endeuillé par la fusillade de Fourmies dans le Nord qui fait 9 morts et 35 blessés quand la troupe tire sur les manifestants pacifiques. Et c'est seulement après la Grande Guerre, le traité de Versailles qui fixe dans son article 247 l'adoption de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures comme but à atteindre partout où elle n'a pas encore été obtenue. Auparavant, le Parlement français avait voté en avril 1919 la loi sur la journée de 8 heures. Du coup, les manifestations du 1er mai porteront sur d'autres revendications comme les congés payés et au fil du temps, de nouveaux acteurs se saisiront de la journée comme l'extrême gauche ou les associations de travailleurs immigrés après mai 68 ou encore les altermondialistes plus récemment, les chômeurs ou les salariés précaires. Demain, aux côtés des syndicats, les gilets jaunes et les écologistes. Aujourd'hui, la souffrance au travail pourrait être à bon droit l'un des motifs de mobilisation. Anne Rodier rencontre dans Le Monde du livre de Sylvaine Perragin, Le salaire de la peine, publié au Seuil. La psychologue du travail évoque la dangereuse montée des tensions dans l'univers feutré des bureaux, alors que 90% des actifs pensent que la souffrance au travail a augmenté depuis 10 ans. Et de livrer quelques chiffres alarmants. En 2017, 400 000 personnes souffraient de troubles psychiques liés au travail. 500 sont parvenues à les faire reconnaître comme maladies professionnelles. En 2018, la France comptait 3,2 millions de personnes en danger d'épuisement, ainsi que plus de 4 000 infarctus directement dus au stress professionnel. En cause, les nouvelles méthodes de management, la surdité volontaire des DRH malgré les nombreux audits et le développement d'un véritable business de la souffrance au travail qui opère comme un cautère sur une jambe de bois. Des fausses solutions étiquetées bien-être au travail ou bonheur au travail dont le succès économique résulte d'un processus d'évitement. Le stress des salariés est abordé dans une approche centrée sur l'individu qui écarte les causalités relatives à l'organisation du travail. Charles Gros, le découvreur de l'international d'Eugène Potier, militant socialiste tendance Jules Guesde et poète à 16 heures, est notamment l'auteur d'une marche du 1er mai qui chante le renouveau. Comme aux arbres monte la sève, l'idée aussi monte au cerveau et la sociale se lève. C'est lui qui évoque à propos des chansons populaires célébrant la fête du travail et les luttes ouvrières, la sève éternellement rouge du 1er mai. Dans son petit traité de sagesse d'un balayeur de rue, paru chez Pocket sous le titre « Une rose et un balai », Michel Simonnet raconte le quotidien du cantonnier urbain qu'il a choisi d'être, un travail ingrat, mais d'où la grâce n'est pas absente, et pour la ménager, cette grâce, il plante tous les jours une rose à l'angle de son véhicule de fonction, le char à ordures, une rose rouge évidemment.